BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire de ce 350e numéro et le dernier inédit de 2023, nous allons évidemment parler de Noël. Dans un instant, je recevrai Catherine Muller, la présidente de la filière horticole, fleuriste et paysagère française. Nous parlerons du marché du sapin de Noël. Il se vend chaque année dans notre pays pas loin de 6 millions de sapins naturels et la plupart sont produits en France. Et que trouve-t-on sous le sapin? Eh bien, des cadeaux, si tout va bien. Avec mes trois autres invités, nous parlerons de jeux, de jouets et même de livres exclusivement conçus et pour la plupart fabriqués en France. C'est le cas de Detective Box, des enquêtes policières imaginées par Émilie Bernier-O'Donnell, qui est en plateau avec nous. C'est le cas aussi de Cracklist, une adaptation du célèbre jeu Le Petit Bac. On en parlera en duplex avec Charlotte Faucon. Enfin, Morgane de Villers nous présentera Slowly, une maison d'édition de jeux et de livres éco-responsables. Mais tout d'abord, mon beau sapin, roi des forêts, alors c'est le roi des forêts, vous le savez, mais est-il aussi le roi des forêts françaises? Eh bien, on va en parler avec Catherine Muller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de Valor, qui est l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. On va donc parler avec vous d'une partie spécifique de cette horticulture, celle qui produit des sapins de Noël. Un mot d'abord sur le marché, alors on n'a que les chiffres pour l'instant, 2022. Oui. C'est environ, je le disais en titre, alors plus de 6 millions de sapins vendus, mais la plupart en naturel. Quels sont les chiffres?
Oui. Alors, à peu près 80% des sapins sont effectivement naturels et la plupart, les trois quarts sont issus de la France, enfin des sapins français et notamment des Nordman.
Alors, sur
le sapin Abies, donc le conifère Abies Nordman qui a le plus de succès.
Alors sur les chiffres de 2022, les seuls à date définitifs, donc 5,7 millions de sapins naturels vendus, c'était un petit peu moins qu'en 2021. La tendance 2023 avec justement l'inflation qui touche tous les secteurs, y compris les arbres, est-ce qu'on sera à peu près sur les mêmes chiffres?
Effectivement, on devrait rester sur les mêmes chiffres avec peut-être une bascule sur l'épicéa plutôt que sur le sapin Nordman, parce que l'épicéa est un petit peu moins cher, mais je pense qu'il y a une bonne stabilité. On a eu une très belle production, très vigoureuse, en pleine forme, donc c'est tout de même très attrayant.
Donc le Nordman, vous le disiez, domine largement le marché, près de 78%. L'épicéa grimpe parce qu'évidemment il est un peu moins cher. Quelques chiffres clés, moi j'ai encore une fois les chiffres 2022, les chiffres clés, le prix moyen de vente d'un Nordman versus un épicéa.
Alors on était en dessous de 40 euros, à peu près 37 euros, je pense cette année, c'est vrai qu'on va certainement avoir une petite hausse liée donc à l'inflation. Alors on va rester sous les 40 euros en moyenne. Tout ça, c'est vraiment du chiffre moyen puisque ça dépend de la taille du sapin, vous pouvez l'imaginer. Pour l'épicéa, on est un peu en dessous, une dizaine d'euros en moins. Voilà, donc c'est à peu près la tendance. Malgré tout, c'est une tendance qui est vertueuse. Les producteurs font très attention à produire au plus juste prix.
Et les Français, dans un sondage, disaient à 67%, donc les deux tiers étaient prêts à payer un peu plus cher pour un sapin français. Ça compte aussi évidemment pour la filière que vous représentez.
Oui, ça compte pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le soutien d'une production qui est très, encore une fois, je viens de le dire, qui est vertueuse et qui a fait d'énormes progrès en termes de production éco-responsable, avec très peu d'utilisation de produits de traitement, plutôt sur du biocontrôle, avec peu de traitement insecticide, donc on reste sur du traitement naturel, avec du désherbage mécanique ou alors du paillage, vous voyez. Donc il y a vraiment des efforts énormes qui se traduisent par l'obtention de labels. On a plusieurs labels, il y a le label rouge, ça existe, le label rouge sapin de Noël,
oui,
le sapin naturel. Il existe donc aussi le label Fleur de France, qui est une garantie que la production est réalisée par des entrepreneurs, enfin des exploitants agricoles très vertueux en termes d'environnement. Et puis, une grande nouveauté, c'est qu'il y a une IGP, donc une
indication géographique
protégée, qui est en cours d'obtention. Et c'est une grande première, parce qu'en général, les IGP, elles sont plutôt sur l'alimentaire. Et je crois que c'est bien la première fois que notre secteur horticole, pépinière, obtient cette IGP. Donc, on devrait avoir, malheureusement, on l'a raté pour l'année 2023.
Ce sera pour 2024.
2024, pensez à l'IGP. Donc, c'est l'IGP Morvan. Un sapin de naturel du Morvan.
Dont fait partie Frédéric Naudet, qu'on avait reçu il y a pile un an dans cette émission et qui lui représente l'association des producteurs de sapins. C'est combien de producteurs en France et combien d'emplois sur cette filière?
Alors, il y a à peu près 136 producteurs qui adhèrent à l'association française du sapin de Noël naturel, effectivement présidée par Frédéric Naudet et qui m'a permis de prendre la parole aujourd'hui. Je l'en remercie. Des emplois, ce sont 1000 emplois temps plein et 3000 emplois saisonniers en période de fin d'année et de transport, évidemment. Donc, vous voyez, ce qu'il faut souligner, c'est le fait que ce sont des emplois qui sont dans des territoires assez difficiles en général.
Lesquels, par exemple? On a donc cité le Morvan, au-dessus du Massif Central.
Voilà, il y a le Limousin, la Bretagne, les Alpes, mais comme il faut de grands espaces et puis plutôt frais, vous voyez, ce sont des endroits où on a peu d'emplois à proposer, donc ces emplois-là sont vraiment capitaux.
Et on rappelle qu'il faut 10 ans, moi je ne le savais pas, pour faire pousser un sapin de Noël. C'est pas d'une année sur l'autre, hein. C'est beaucoup plus long, évidemment.
C'est une longue production, mais on est habitué, vous savez, dans la filière de Valor, à avoir des productions longues, et cette notion du temps long, c'est quelque chose qu'on a du mal à retraduire après auprès des consommateurs qui sont habitués à du temps court. Donc pour nous, c'est un challenge.
Un chiffre que j'ai découvert aussi, c'est le lieu d'achat. Je pensais que la grande distribution avait pris le lead, c'est pas le cas. Alors elle est deuxième, je crois, à 31%. On achète le sapin de Noël encore en grande distribution, mais la filière que vous représentez, la partie distribution, est encore numéro un.
Oui, et alors cette filière, effectivement, ce sont les fleuristes, ce sont les jardineries, ce sont les LISA, ce sont des distributeurs agricoles. Donc eux, effectivement, sont encore en tête de liste sur ces créneaux de distribution. Mais il y a aussi, on le voit, le développement de l'achat direct chez l'exploitant. Ça, c'est une question de localisation. Hein. C'est vrai que si on est proche d'un producteur, on a intérêt, pour des raisons ni plus ni moins de logistique, d'aller chercher directement chez le producteur. Mais malgré tout, c'est vrai, c'est notre filière qui commercialise encore le plus de sapins aujourd'hui.
Vous le disiez, donc on n'est pas autosuffisant. Vous disiez que 80% des sapins Noël achetés en France étaient faits en France. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être autosuffisant en termes de production par rapport au nombre de sapins vendus?
Ah, ça, c'est l'éternel problème de la production agricole française. C'est un souci qu'on rencontre sur d'autres sujets, comme la fleur coupée, par exemple. C'est vrai que solliciter de nouveaux producteurs ou faire en sorte que les surfaces produites se développent, c'est assez difficile en France. Mais on soutient, c'est justement l'intérêt de Valor, c'est d'essayer de soutenir cette production par différents moyens, alors économiques, communication, la défense des métiers. Je pense qu'on est sur une bonne voie, parce qu'il y a une certaine appétence maintenant à revenir dans la production agricole.
Valor, en quelques chiffres clés, combien de professionnels, combien de chiffres d'affaires dans votre filière?
C'est assez gros, oui. 52 000 entreprises tout de même, c'est 186 000 professionnels, et puis 15 milliards de chiffres d'affaires. Alors, on l'ignore souvent, cette filière, mais c'est une filière qui est très importante. On en a pris connaissance avec le Covid, parce que on s'est aperçu que la nature, c'était un environnement absolument essentiel dans une vie qui est de plus en plus digitalisée. Et puis, on assiste à un véritable renouveau de la ville. La ville devient une ville qui accepte la nature de plus en plus fréquemment.
Et c'est très bien. Et une toute dernière image pour terminer cet entretien, celle du sapin de Noël qui a été installé à l'Élysée il y a quelques semaines. Un magnifique sapin Nordman de 23 ans, 12 mètres d'eau, donc plus que les 10 ans, 23 ans et 6 mètres d'envergure. Il vient du Morvan. C'est important, quelques chiffres clés encore, 2000 mètres de guirlandes, des lumières basse consommation et 4000 objets de décoration. On le voit pour ceux qui nous suivent en télé ou sur le web, il est impressionnant. C'est important que les institutions, au sens large, pas que l'Élysée, les mairies, etc., soutiennent votre filière.
Mais c'est non seulement c'est important, mais c'est même capital. Vous savez, avoir un tel soutien pour nous, c'est nous donner envie de continuer, dans cette pérennité, et puis de se dire, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont parfois peu reconnus, et là, on a enfin acquis une forme de reconnaissance qui est au plus haut niveau, puisque l'Élysée qu'est-ce que vous voulez de mieux?
Voilà, je vous laisse ce mot de la fin. Merci beaucoup, merci. Catherine Muller, d'avoir été l'invitée de ce dernier inédit de la France à tout pour réussir. Joyeux Noël, évidemment, à toute la filière, tous ceux qui se sont mobilisés pour des sapins de Noël tout au long de ces derniers mois.
Merci. Joyeux Noël à vous aussi. Oui.
Et sous le sapin, il y a normalement, et c'est de bon augure, il y a des cadeaux, et on va passer cette deuxième partie de l'émission à parler de jeux et de jouets conçus ou imaginés en France. On commence avec vous, Émilie Bernier-O'Donnell. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Detective Box. Vous en avez un exemplaire. On va le détailler dans quelques instants. Vous surfez donc, vous, à la fois sur le retour en grâce des bons vieux jeux de société avec des plateaux et des cartes. Je fais partie d'une génération qui a presque envie de dire qui l'eût cru quand on a vu toute l'explosion des jeux vidéo, etc. Même si vous faites du digital, on en parlera dans quelques instants. Donc, un mélange entre les escape games et les bons vieux jeux de plateau. C'est quoi le concept de Detective Box?
Oui, alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'effectivement, c'est un mélange entre un escape game, un jeu de société, mais aussi une série policière. En fait, le principe de Detective Box, c'est qu'on envoie chez vous un cold case, donc une affaire non résolue. Et donc, vous devez vous mettre dans la peau d'un détective pour tenter de démasquer le meurtrier de cette grosse affaire. Donc là, on est sur vraiment un gros dossier, parce qu'une enquête comme ça, ça dure à peu près 11 heures. Et donc, il y a plusieurs épisodes dedans. Et donc,
trois épisodes pour chaque enquête. Voilà.
C'est ça, il y a trois épisodes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a trois boîtes. Chaque boîte est un épisode de l'enquête. Et comme une série policière, en fait, à la fin de chaque épisode, il y a du suspense, il y a des révélations, et on le travaille vraiment comme ça.
Et donc, il y a dedans, à l'intérieur, je vois un carnet, je vois un stylo, je vois une carte, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup d'indices, vraiment, pour jouer pendant ces 11 heures, à trouver le coupable. Donc là, je crois, voilà, c'est l'assassinat d'un étudiant, Harry Coleman, dans une université américaine. C'était la première enquête.
Exactement, ouais.
Là, c'est la deuxième qui est sortie à la mi-novembre, c'est le tueur au tarot. Cette fois-ci, on est en France. C'est quoi le cœur de l'enquête et qu'est-ce qu'on trouve dans la box?
Alors, j'ai sorti quelques éléments ici pour vous montrer. On a effectivement des vieux dossiers de police avec dedans des coupures de journal de l'époque, des choses comme ça. Il y a des pièces à conviction qu'on retrouve sur la scène du crime. Donc là, notamment, c'est des cartes de tarot. Donc, cette seconde enquête qui s'appelle Le tueur au tarot, l'histoire, c'est celle du meurtre de Rebecca qui a lieu en 2023. Mais en fait, ce meurtre ressemble en tout point au vieux meurtre du célèbre tueur au tarot qui agissait dans les années 90. Et donc, il va falloir rouvrir le cas du tueur au tarot parce que celui-ci est derrière les barreaux actuellement. Donc, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il s'agit d'un copycat, que s'est-il passé vraiment pendant cet épisode du tueur au tarot dans les années 90. Et donc, ça prend à peu près effectivement 11 heures pour résoudre l'enquête, sachant que nous, il y a un vrai travail de réflexion autour de ce qu'on met dans la boîte et aussi de ce qu'on met dans notre application digitale. Parmi les 11 heures d'enquête, il y a notamment 3 heures de vidéo, d'audio. On a beaucoup d'acteurs qui viennent remplir et révéler des choses pendant l'enquête. Il y a des endroits à explorer à 360 degrés, donc comme une exploration Google Earth, Google Maps. Voilà, je n'ai pas tout révélé, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a des coups de fil à passer, des emails à envoyer. Donc vraiment, on essaie de se fondre dans le réel.
Et c'est évidemment un énorme travail de développement, je crois, un an et demi en moyenne pour chaque nouvelle enquête, c'est ça?
Oui, absolument. Un an et demi pour développer trois box comme celle-ci et puis plus de 60 personnes qui participent à la conceptualisation.
60 personnes, donc il y a des salariés de votre côté, il y a, j'imagine, beaucoup de freelance aussi pour créer les choses dans toute la France. Un petit bémol, la production n'est pas en France, vous m'avez dit avant l'émission. Pourquoi ne pas la faire en France? Alors, je crois que c'est même loin, c'est même en Chine, je crois.
Oui, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est compliqué pour nous, parce qu'on met vraiment l'accent sur le détail dans l'enquête, sur le nombre d'éléments qu'on met dans les boîtes pour pouvoir révéler des choses au fur et à mesure de l'enquête. Malheureusement, aujourd'hui, si on voulait faire la même chose en France... Pour l'instant, en tout cas, on serait sur
des coûts
qui seraient pas du tout tenables.
Parce que cette boîte, elle coûte combien?
Donc là, on est sur 100 euros pour les trois boîtes.
Les trois boîtes. Voilà. Donc une enquête est à 100 euros. Le nombre d'opus écoulés, à la fois pour la première enquête et pour celle-ci qui est sortie il y a un peu plus d'un mois et demi. Combien?
Sur celui-ci actuellement, ça change tous les jours. Au total, là, on atteint à peu près les 100 000 boîtes vendues, donc sur les deux enquêtes.
Sur les deux enquêtes, oui.
C'est ça. Celle-ci, si je ne me trompe pas, pour l'instant, on doit être environ à 30 000 boîtes.
Ah oui, donc c'est un beau succès, mais
c'est
je crois qu'on ne s'arrête jamais sur ces. On ne se repose jamais sur ces lauriers. Donc en 2024, une troisième enquête est dans les tuyaux?
Absolument, une troisième et même une quatrième. Donc on travaille dur pour accélérer le processus de création, parce qu'on a pris un an et demi pour créer la première. C'est moi qui l'ai l'avait écrite. 1 an et demi pour faire la deuxième. Et maintenant, on va essayer d'en créer un peu plus rapidement puisque l'entreprise croît rapidement aussi. Donc, il faut pouvoir suivre la demande. Les gens en redemandent beaucoup.
L'entreprise, elle a cru aussi début janvier 2023. On va regarder quelques photos de votre passage à Qui veut être mon associé, l'émission d'M6 qui met en avant les entrepreneurs. Vous êtes passé au tout début janvier. Un, est-ce que les investisseurs vous ont suivi? Et deux, l'effet sur les ventes?
Alors oui, moi j'ai eu un passage qui a eu beaucoup de succès. J'ai 4 investisseurs qui ont décidé de me suivre sur mon passage en plateau.
Pour un montant de combien?
Pour un montant de 150 000 euros.
C'est pas mal pour le développement.
C'est ça, exactement. Et puis le soir même, alors on a fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires en 3 jours il me semble. Donc à l'époque c'était beaucoup parce qu'on venait tout juste de lancer l'entreprise. Aujourd'hui c'est ce qu'on fait en un jour. Mais voilà, à l'époque c'était vraiment un beau milestone et vraiment des beaux résultats. Ouais.
On l'avait vu, on a reçu aussi les lauréats de CAPSMI qui ont eu un vrai effet après leur passage sur cette émission. Vous restez avec nous, Émilie. On va tout de suite prendre en duplex Charlotte Faucon. Bonjour.
Bonjour.
On va rester dans les jeux de société qui cartonnent. C'est Cracklist. Alors, vous êtes la directrice générale de Yaka, la société éditrice de Cracklist. Alors, autant je le reconnais, je n'ai pas eu le temps de tester Detective Box, autant j'ai testé Cracklist. Eh ben, ça a cartonné dans une soirée où j'ai amené le jeu. Rappelez-nous le concept. C'est un petit bac revisité, en fait. Hein.
Exactement. C'est le mélange entre un petit bac et un Uno, si c'est le plus simple pour le résumer. En fait, vous avez des cartes avec des thèmes et peut-être le plus simple, c'est presque de tester en plateau. Vous avez des cartes avec des lettres. Et par exemple, si je vous dis marque de voiture et vous devez vous défausser de la carte R, vous me proposez quoi comme réponse?
Renault.
Top. Voilà, très bien. C'est, donc là, c'est vous débarrassez d'une carte.
J'ai tout ensuite, bon, mais j'aurais pu dire Range Rover, Rolls-Royce. Exactement. Pour citer, parce qu'on est à la télé, il faut citer 3 marques. Hein. Et m'en sors bien.
J'allais faire jouer les filles, les autres.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Mais c'est ça le principe. Et en fait, après, le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes en premier. Vous avez des cartes qui pimentent un peu le jeu. Vous pouvez pénaliser vos adversaires, vous pouvez passer le tour des adversaires. Et surtout, il y a la carte Cracklist qui permet de changer en fait les thèmes. Et c'est un peu la force de ce jeu-là, c'est qu'on joue chacun son tour. Mais surtout, il y a une variété de thèmes. On a vraiment mis beaucoup d'importance sur l'édito pour pouvoir jouer en famille, entre potes. Et comme en fait, c'est les gens qui fournissent les réponses, les parties sont jamais vraiment les mêmes.
Il y a 230 thèmes à date et je crois d'autres, et des centaines disponibles sur l'appli gratuitement, je crois, en plus.
Exactement. Exactement. Aujourd'hui, il y a 230 thèmes et il y a une appli gratuite avec des centaines de... Je vous paraphrase, donc vous avez...
C'est une histoire de famille, puisque vous travaillez, je crois, avec votre papa Pierre. Alors, lui qui a lancé l'entreprise, mais sur la partie jeu sur smartphone, et finalement, vous l'avez rejoint avec une branche un peu plus classique des jeux de société.
Exactement. Est-ce que c'est bien résumé? C'est très bien résumé. Le papa a toujours fait des jeux. Il nous faisait jouer même pour savoir qui allait prendre la dernière part de dessert, parce qu'on est une famille nombreuse. Et les jeux de société, il s'y est penché en fait post-confinement, où il avait envie de réunir un peu tout le monde. Et c'est vrai que été 2021, il était avec ses petites cartes blanches à faire au feutre, à tester avec nous son jeu. Et j'y ai cru très vite et j'ai eu envie de le pousser, de le développer avec lui. Donc là, on s'est lancé on a commencé à travailler ensemble en 2021 et on a lancé le jeu en janvier 2022.
Alors depuis janvier,
ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans. Combien de ventes à date? Est-ce que vous avez aussi les tout derniers chiffres de ce Noël 2023?
Écoutez, ouais, on est surtout en France et puis dans 8 autres pays. Cracklist est disponible en 6 langues aujourd'hui et on aime bien dire qu'on a plus de 2 millions de joueurs et on a plus de 350 000 boîtes vendues aujourd'hui.
Donc combien en France?
Au moins 250 000.
Et le prix de vente en France, le prix de vente conseillé, comme on
dit? C'est 19,99 et on essaye d'avoir ce prix dans tous les pays européens. Et aux États-Unis, c'est 19,99 $. Et en Angleterre, c'est 19,99 £.
Alors, donc, on l'a dit, Detective Box, les boîtes pas fabriquées en France, pas encore, c'est trop cher. Est-ce que les vôtres sont fabriquées en France?
Nous non plus. Un peu pour les mêmes raisons. Nous, on est produit en Europe pour toute la partie européenne. Et toute la partie États-Unis, Canada est produite en Chine. On a essayé de rester cohérent et comme on est sur des petits prix 20 euros, c'est difficile aujourd'hui de tenir une production en France. Donc on a essayé de rester le plus responsable possible en restant en Europe. Mais en termes de prix et de coûts, demain on en fait plus de millions. Je pense qu'on pourra peut-être se pencher sur la question et se faire toutes les boîtes françaises en France. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir.
Je signale que vous avez reçu le Grand Prix du Jouet 2023, élu meilleur jeu de famille, donc ça compte. Oui. Et je voulais vous interroger, donc, pour finir cet entretien, sur les autres projets. Vous avez revisité le Petit Bac. Est-ce que vous avez dans les cartons d'autres projets pour revisiter des jeux très, très connus?
Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, on a lancé un nouveau jeu qui s'appelle Crack World. En fait, l'idée, c'est vraiment de rester sur les petites boîtes à 20 euros, un jeu de cartes, et d'essayer de revisiter un peu des jeux que tout le monde connaît, avec une sauce qui permet de s'amuser et en famille et entre amis, et aussi donner le goût des jeux de société, parce que, petite anecdote, on a beaucoup de gens qui n'aiment pas jouer, qui jouent à nos jeux, et notamment Natacha Saint-Pierre qui a dit il n'y a pas très longtemps sur France 2 qu'elle détestait les jeux de société, sauf Cracklist.
Ah bah bravo. C'est le meilleur des spots de pub, hein. C'est le meilleur des spots de pub, je pense. Et puis d'autres projets,
Donc Crackword, en fait, ça, c'est un peu, c'est pour les amateurs de jeux de lettres, donc c'est un Scrabble en jeu de cartes, un peu plus simple entre guillemets pour jouer aussi avec des enfants. Et le dernier qui est dans les tuyaux, et donc vous allez voir en avant-première comment se passe la mise au point d'un jeu de société. Donc là, vous voyez, c'est le proto. Dans le proto, on est sur des cartes. Attendez, je vous montre parce que c'est quand même rigolo.
Le crack 10,
c'est ça.
Et là, on
va être sur un jeu de chiffres. Comment ?
Le crack 10, là, je vois, c'est ce que vous nous avez montré. Je sais pas si dans ce que vous nous avez montré, voilà, c'est ça. Le crack 10, c'est quoi ?
Crack 10, ça sera en quelques secondes. En quelques secondes, c'est alors un jeu de chiffres, un mix de whist, de tarot, de uno. Enfin voilà, on essaye de mettre au point un jeu de chiffres qui soit encore plus universel et facile à international. Parce que c'est vrai que sur Cracklist, ce qui était très l'enjeu, c'était l'édito et que ce soit que ça marche dans toutes les langues et que ça soit aussi rigolo en français qu'en anglais.
Eh bien, merci Charlotte Faucon. Donc pour ce Cracklist pour l'instant, mais ces projets Crackword et Crack 10 dont vous nous avez parlé sur cette antenne. Joyeux Noël également à la famille Faucon,
merci,
puisqu'on
Joyeux
en
Noël
est aux vœux. Et on termine avec vous. Alors cette fois-ci avec des jeux vraiment ou des livres made in France. Vous me le confirmez. Bonjour Morgane De Villers.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Slowly. Alors racontez-nous ce qu'est Slowly, société que vous avez créée en 2019 à Roubaix avec François-Xavier Poulain.
Absolument. Slowly, c'est une marque de jeux entièrement éco-responsable, donc 100% fabriquée en France. C'était le défi qu'on voulait relever, avec des matières écologiques et créée de façon totalement zéro déchet. Donc rien à jeter une fois qu'on a fini de déballer le jeu, ce qui est très rare, voire inexistant.
Parce que les jeux et les jouets ont souvent une durée de vie assez courte, finalement, avec un taux de déchets très important, lui. Hein. C'est ça, c'est votre,
exactement.
C'est un de vos constats.
C'est ça. En fait, on voulait proposer une alternative vertueuse et écologique par rapport aux trois problèmes qu'on avait identifiés, qui étaient le fait que, on l'a vu, mais c'est le cas majoritairement, très 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 peu de jeux fabriqués en France. Très peu de matière écologique, beaucoup de plastique et puis beaucoup de déchets. Donc on s'est attaqué à ces trois sujets en même temps.
Alors quelle est la gamme Slowly? Vous en avez quelques échantillons. Oui. Montrez-nous un petit peu ce que vous produisez.
Donc nous on a une gamme pour le grand public qui s'adresse plutôt aux enfants et aux familles, donc enfants de 3 à 12 ans à peu près, avec des jeux qui ont des thématiques liées à la découverte de la nature et à la préservation de l'environnement. L'idée c'est de protéger la planète en s'amusant. Donc là par exemple Go les végétaux qu'on voit ici, on est sur un jeu de cartes avec l'idée de découvrir les fruits et légumes et d'apprendre les saisons, mais avec un jeu de rapidité qui s'inspire par exemple du Jungle Speed ou de jeux de rapidité comme ça, où l'idée c'est d'attraper des totems en fonction des combinaisons de cartes qu'on va voir sur la table. On a un jeu ici qui s'appelle Sauve Animaux. L'idée c'est de découvrir 18 espèces d'animaux sauvages à préserver avec des cartes qui permettent de demander des indices et d'essayer de deviner de quels animaux on parle. Ils sont représentés sur ces pions-là. On peut jouer comme un memory, on peut jouer comme un jeu de rapidité, jeu d'observation.
Et le marché, là c'est pour les particuliers mais pas seulement. Vous développez de plus en plus le B2B en plus du B2C.
C'est ça. Donc là, la partie B2C qu'on vient de voir ici, donc, qui est disponible sur notre site internet et chez nos revendeurs. On a aussi une partie plutôt pour le secteur éducatif et culturel, pour qui on fait par exemple nos jeux dans des formats géants, donc médiathèques, écoles, centres sociaux, collectivités. Et puis ce qu'on fait de plus en plus et pour lequel on est extrêmement sollicité, concevoir des jeux sur mesure autour de thématiques qui ont du sens et notamment thématiques environnementales pour des entreprises, des collectivités, des associations qui souhaitent sensibiliser autour d'un sujet qui leur est vraiment propre à leur public, soit en interne vis-à-vis des salariés ou de leurs bénéficiaires par exemple si c'est une association. Et donc ça on les accompagne depuis la conception jusqu'à la fabrication.
Et pour vous, c'est plus rentable, peut-être plus lucratif, cette partie B2B?
Alors oui, effectivement, c'est pas le même modèle économique, donc les deux se complètent et c'est assez intéressant pour nous. Mais effectivement, on a des coûts de conception qu'on facture aux clients, et puis évidemment la fabrication ensuite en fonction du volume.
Mais la répartition entre le B2C et le B2B dans votre chiffre d'affaires?
Alors, jusqu'à présent, on était à peu près à un équilibre un tiers pour les trois secteurs que je viens de mentionner. Là, le B2B est en train de grimper en flèche.
Vous parlez de la production en France, je crois qu'il y a un petit peu partout, Loire, Jura, Nord, c'est ce que j'ai vu, un ESAT aussi pour la partie finale. C'est important, voilà, donc on revient sur ce thème dans vos valeurs et dans votre développement d'être fait en France.
En fait, on voulait prouver que c'est possible. C'est pas simple, clairement. C'est compliqué, ça coûte plus cher, mais on a fait en sorte d'avoir des marges qui soient raisonnables pour pouvoir proposer des prix de vente raisonnables aussi. Donc on est sur une gamme entre 15,90€ et 54,90€ pour des jeux qui sont fabriqués en hêtre massif du Jura, des pochons en coton recyclé, du papier avec des encres végétales, tout ça fait en France. Je pense qu'on a abouti à un équilibre plutôt pas mal.
Qui est bien. Le nombre de salariés, 4 salariés, je crois, chez Slowly, est toujours à l'incubateur Blanche Maille, qui est un ancien site de La Redoute.
C'est ça, ancien site de La Redoute, et puis qui fait partie de l'incubateur Euratechnologie.
Euratech, oui, bien sûr, voilà, dont on parle souvent sur ces antennes. En un mot, en quelques secondes, les projets pour 2024, vous continuerez à développer de nombreux produits?
Tout à fait, on continue de développer la gamme, qui comprend aussi des livres et des carnets d'activités, donc pour
on
avoir
pas parlé
quelque
des livres,
chose
c'est vrai, voilà,
d'assez large pour les enfants. Donc ça, c'est notre série Les Petits Mousses à la rescousse de la planète, et puis continuer sur le B2B, parce qu'on a énormément de demandes.
Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'avoir été toutes les quatre. Je crois que c'est une première, quatre invitées féminines dans cette émission. On en est ravis. Encore une fois, très bonne fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous, et à vous toutes qui étaient en plateau. La France a tout pour réussir est diffusée en télé, en radio et sur tous nos supports digitaux. La semaine prochaine, rediffusion d'une des émissions récentes, il y a quelques semaines, à Marseille, fin novembre. J'avais reçu les patrons de France Immersive, du 2 Chevaux Méhari Club de Cassis et de l'atelier de Santon Marcel Carbonel, en plein cœur de l'actualité en cette période de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous le 5 janvier pour le tout premier numéro 2024 de La France a tout pour réussir. On y parlera notamment de galettes des rois et de composteurs qui vont devenir obligatoires dans nos logements. Ce seront des composteurs made in France, évidemment. Rendez-vous donc en 2024. À très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, La France a tout pour réussir.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.